Radio Kapi.
Examen d'état 2020 en RDC. Logo a été donné depuis Lubumbashi par le ministre de l'EPST à Matadi. Un groupe de finalistes chassés pour non-paiement des frais ont obtenu la faveur du gouverneur Atumatubwana et à Manono dans le Tanganyika. La plupart des candidates sont enceintes. Situation sécuritaire préoccupante dans la périphérie de Bunia, le quartier Kindia et la localité de Fichama à l'entrée de la ville, vidée de leurs habitants, y craignent les exactions des miliciens de la Codeco encore visibles dans le coin. Et puis, désormais, tout journaliste traqué ou poursuivi au Kasaï central dans l'exercice de ses fonctions sera défendu devant différentes juridictions. Un contrat a été signé dans ce sens entre journalistes en danger et l'association d'avocats bâtonniers Dominique Kambala. Maître Kambala est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonsoir. Début ce lundi de la session ordinaire de l'examen d'état édition 2019-2020 dans toute la RDC. Au total, 818 667 élèves finalistes du secondaire sont concernés par cette épreuve, selon l'inspecteur général de l'EPST. Au Congo central, c'est le gouverneur de province qui a donné le coup d'envoi à Matadi en présence du secrétaire général de l'EPST. Le Congo central aligne cette année 42 939 candidats, dont 19 362 filles reparties dans 133 centres. Nana Plurich Mambou, reportage.
Au cours de sa ronde dans quelques centres de passation des épreuves pour s'assurer de leur bon déroulement, le gouverneur a été intercepté par un groupe d'élèves finalistes du lycée Vuvukieto. Ils ont été empêchés de participer à l'examen d'état pour non-paiement des frais. Atumatubwana a obtenu qu'ils reprennent leur place dans les salles d'examen en donnant quelques instructions.
Nous avons demandé à ce qu'on autorise ces enfants à passer l'examen le temps qu'on régularise la situation. Donc aucun enfant ne peut être mis dehors s'il n'a pas payé les frais scolaires, les frais de participation des examens. Tous les enfants doivent être acceptés. Question que le rapport soit envoyé aux autorités compétentes.
Jean-Marie Mangobe, secrétaire général de l'enseignement, a quant à lui estimé qu'en dépit de la fermeture des écoles pendant 5 mois suite à la pandémie de coronavirus, les candidats sont suffisamment outillés pour affronter ces épreuves.
Toutes les dispositions avaient été prises pour que les enfants aient le temps de pouvoir rattraper toutes les matières qui n'ont pas été données. Donc c'est pourquoi nous avons donné une période d'un mois et durant cette période-là, tous les enfants finalistes ont suivi leur programme restant sans problème.
Signalons que dans tous les centres où est passé le gouverneur Atumatubwana et sa suite, chaque candidat est muni de son masque de protection et tous les dispositifs de lutte contre la COVID-19 sont mis en place. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
À Kinshasa, la capitale, le go a été donné par le vice-ministre de l'EPST, Didier Boudimbou, au lycée Kabambar. Ici, le candidat le plus jeune a 16 ans, alors que le plus âgé dépasse la soixantaine. Un sujet de fierté pour le chef de centre du lycée Kabambare. Selon Charles Mutamuntu, ministre provincial de l'éducation, la ville-province de Kinshasa regroupe plus de 154 000 candidats répartis dans les centres des 4 districts. Adolphine Ngoy, reportage.
L'inspecteur chef des centres du lycée Kabambare est fier du choix porté sur son établissement par les autorités pour lancer le coup d'envoi de la session ordinaire de l'examen d'état 2019-2020. L'inspecteur Moudéroa parle de l'âge des candidats.
Je suis fier de vous dire, comme c'est par moi où vous allez lancer pour toute la province le commencement de la grande session. Chez nous, le moins âgé de la province a 16 ans. Il est de la section chimie-biologie. Le plus âgé a 65 ans. Il fait la section pédagogie générale. Moi, je suis son aîné de 3 ans. Je suis fier.
Dans le souci de renforcer le respect des mesures barrières pour lutter contre la COVID-19, le ministre provincial Charles Mutamuntu a sollicité le locaux des autres écoles environnantes.
Dans la ville-province de Kinshasa, on a exactement 154 000 candidats. Ce matin, il y aura peut-être modification du nombre de centres parce que nous avons recommandé aux délégués de voir la possibilité d'utiliser d'autres écoles voisines afin de tenir compte des mesures barrières. Nous avons encore renforcé les mesures parce qu'il faut beaucoup plus de vigilance.
S'exprimant devant la presse, le vice-ministre de l'EPST a salué l'engagement du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a permis de sauver cette année scolaire. Rappelons que la session proprement dite s'étend sur 4 jours.
Sachez que le coup d'envoi de l'examen d'État édition 2020 a été donné à Lubumbashi par le ministre d'État en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Willy Bakonga a salué l'engagement de tous les partenaires de l'éducation et la détermination qui ont caractérisé les uns et les autres pour sauver cette année scolaire perturbée par la pandémie de COVID-19. Témoin de l'événement, Jean Gandou.
Au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, je lance officiellement la session ordinaire de l'examen d'État.
C'est par ces mots du ministre d'État et ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique que le go de l'examen d'État 2020 a été donné. Une occasion pour les élèves, à travers leurs représentantes, de saluer l'implication de toutes les autorités pour enfin écarter le spectre de l'année blanche qui pointait à l'horizon à cause de la pandémie de coronavirus. C'était avant que l'inspecteur principal provincial n'ouvre la malle contenant les items de l'examen d'État et ne remette une enveloppe au ministre d'État Willy Bakonga. Ce dernier a encouragé tous les finalistes du pays à travers ce présent à cette cérémonie. Paraphrasant l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, le ministre d'État Willy Bakonga a indiqué que l'éducation est une arme puissante capable de changer le monde et de renchérir que l'éducation c'est le levier important du développement d'un pays. Voilà pourquoi les autorités du pays, malgré la présence de la pandémie du coronavirus, ont tout fait pour sauver cette année scolaire au moment où plusieurs n'y croyaient pas. Il a rappelé à tous les élèves de respecter les mesures barrières pour lutter contre la propagation de la COVID-19. Notons que pour cette édition, le pays aligne plus de 818 600 candidats et les Tanga en a environ 60 000. Ces derniers sont éparpillés dans 124 centres. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
À Manono, dans le Tanganyika, nous apprenons que la plupart des filles qui présentent l'examen d'État sont enceintes, constat du Conseil territorial des jeunes. À la base de cette situation, d'après cette structure, le manque d'encadrement des filles finalistes. L'autorité locale dit quant à elle attendre un rapport de la part des responsables de l'enseignement avant de se prononcer. Le point avec Expedi Mwambamubi.
À Manono, la session ordinaire de l'examen d'État débute avec ce constat fait par le Conseil territorial des jeunes. La majorité des filles candidates portent une grossesse. Cette structure de la jeunesse déplore le relâchement dans l'encadrement des filles. Dieu merci Kabila, président du Conseil des jeunes.
La plupart des filles qui se sont présentées aux épreuves sont en beauté. 80% des femmes, des filles qui sont désormais des âmes sont grosses. Là, c'est une particularité à Manono.
Vous dites 80%, c'est pas trop fort?
C'est un élément qui fait la une. Ce n'est même pas trop, je vous dis. C'est la majorité qui est engrossée. La minorité n'est pas engrossée.
Nous n'avons pas réussi à joindre les responsables du service genre, famille et enfants pour avoir leur version. Toutefois, l'administrateur de territoire, Pierre Mukamba Kaseya, s'est montré réservé.
Les filles qui sont engrossées, pour moi, c'est une information. Si les filles qui ont été engrossées, je vais demander un peu les responsables. Pour m'informer, c'est pas la
grossesse,
ce n'est pas une maladie.
Kalemi, Expedi Mwambamubi, Radio Okapi.
Et pour clore ce chapitre, dans la Tchopo, le premier jour de l'examen d'État s'est passé sans incident dans les différents centres d'examen. L'inspecteur principal provincial de l'enseignement exhorte les candidats finalistes à avoir confiance en eux-mêmes. Jacques Moukonkolé, reportage.
Quelques deux heures après le début de l'examen, certains élèves n'ont pas tardé à quitter la salle. Ils affirment avoir trouvé l'épreuve de ces jours abordable. Laurie Asango, de 6e année pédagogique à l'Institut de Mokitenge.
Toutes les questions c'était facile parce que nous avons beaucoup étudié à préparer les examens.
À un peu plus de 500 mètres de l'Institut de Kisangani, un autre groupe d'élèves venait de sortir des salles d'examen au centre Tobongisa. Les impressions sont les mêmes. Polycarpe Apipone, élève de 6e année technique sociale au complexe scolaire Mapele.
Il y avait certaines questions qu'on avait vues pendant les cours et d'autres qui sont venues concernant le coronavirus.
Tout en se félicitant du calme, de l'ordre ainsi que des gestes barrières observés dans tous les centres d'examen, l'inspecteur principal provincial de l'enseignement, Marcel Longé-Moutachi, exhorte les candidats à ces épreuves à les aborder avec détermination.
J'invite tous les candidats à une participation individuelle, sans chercher à tricher, sans chercher à collaborer. Je les invite également à avoir confiance en eux-mêmes.
26 783 candidats, dont 11 170 filles, passent ces épreuves dans 74 centres disséminés à travers la Tchopo. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Direction l'Ituri, la situation sécuritaire reste précaire à la périphérie de la ville de Bunia. De nombreux habitants continuent à vider le quartier Kindia et à Fichama, localité située à l'entrée de la ville de Bunia. Ils craignent les exactions des miliciens de la CODECO qui sont toujours visibles dans cette zone. Pendant ce temps, une forte présence des militaires est observée à la limite de la ville, mais cela ne rassure pas la population qui demande à ce que les assaillants soient délocalisés loin des équerrés où ils sont regroupés pour le moment. Isaac Remoyope nous en dit plus.
Au quartier Kindia, à l'entrée de la ville de Bunia, plusieurs maisons sont abandonnées par leurs occupants. Jusqu'à ce lundi matin, des mouvements de population avec leurs effets sont toujours observés. À la localité de Fichama, au groupement Peigny, où ces miliciens de la CODECO s'étaient retranchés vendredi, après leur sortie de la ville de Bunia, c'est le désert total. Ces personnes ont déménagé dans d'autres coins des quartiers Kindia ou Hoho, voire dans d'autres entités proches de la ville, notamment Adélé. Certains ont même délocalisé leurs activités de commerce, notamment les bars, les restaurants et les boutiques. Selon leurs témoignages, des assaillants de la CODECO avec leurs armes quittent leur maquis pour venir acheter des biens de première nécessité dans les boutiques au quartier Kindia, ce qui crée la psychose même dans d'autres quartiers de la ville. Les habitants confirment la présence des FARDC qui sont déployés dans cette partie de la ville pour sécuriser la population. Cependant, ils soutiennent que leur présence ne rassure pas car ces miliciens s'étaient introduits vendredi à Bunia au vie et aussi des services de sécurité. Pour eux, la solution durable consiste à délocaliser ces groupes armés. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Restons en Ituri pour signaler la libération de 17 personnes parmi les 42 qui avaient été prises en otage par des miliciens de la CODECO à Chaba, dans le territoire d'Arou. C'est depuis 3 jours qu'elles ont été libérées par leurs ravisseurs, puis remises au FARDC à Djougou. Selon le porte-parole des FARDC en Ituri qui l'annonce, ces personnes ont passé 5 jours en brousse entre les mains de leurs ravisseurs. Le lieutenant Jules Ngongo affirme que la délégation des anciens chefs des groupes armés de l'Ituri envoyée par le chef de l'État a joué un rôle important pour la libération de ses habitants, signalant que 5 personnes parmi ses otages ont été tuées par les assaillants de la CODECO et d'autres sont toujours détenus dans leur bastion. Dans l'actualité aussi, le lancement officiel ce week-end des activités du centre d'achat et de traitement de café à Wachinkengo. Nous sommes dans le territoire de Boende, province de la Chuapa. C'est grâce à l'intervention de l'ONG italienne ISCO qui conduit ce projet dénommé Programme agricole rural de conservation du complexe de la Salonga. Un programme qui encourage les paysans à cultiver entre autres le café et le cacao afin de bien conserver et protéger le parc de Salonga. Cet événement a poussé le gouvernement de la Chuapa d'effectuer pour la toute première fois le déplacement dans cette partie de la province. Plus de détails avec notre envoyé spécial Kanish Mukongo Chamboui.
C'est dans cette ambiance que les paysans de Wachinkengo et les autorités provinciales de la Chuapa ont découvert ce centre d'achat et de traitement des cafés équipé de 2 machines. Une pour dépulper, soit décortiquer les cafés par la voie humide, et une autre machine pour enlever la parche, soit la partie dure du café, avant de les mettre sur le marché. Fiston Longangue est l'un des encadreurs locaux de paysans et bénéficiaire de ces centres. Il s'est dit satisfait de cette initiative de ISCO.
Aujourd'hui, l'ISCO vient d'encourager cette population-là. Si vous produisez, votre produit ne sera pas pourri comme avant. Votre produit sera acheté, pas seulement acheté, mais transformé ici même chez vous. Ce que nous pouvons dire à l'ISCO est plus que merci.
Un événement qui n'a pas laissé indifférentes les autorités de la province. Jean-Pierre Bonzemba Imbio est l'administrateur du territoire de Boende.
Cet engouement démontre que l'initiative de l'ISCO permettra le développement de la contrée, que tout le monde s'adonne à la culture des cafés, qui jadis aidait la population pour la scolarisation de leurs enfants.
Outre les activités agricoles dans lesquelles ISCO est engagé, l'ONG italienne réalise aussi des actions dans le domaine des infrastructures de base, telles que les routes et le pont. Depuis Boende dans la province de Chuapa, Kanish Mukongo, Radio Kapi.
Et puis, une délégation de la famille Kabila, président honoraire de la RDC, séjourne depuis quelques jours dans le sud Kivu, conduite par Henri Kitenge, directeur de cabinet d'Olive Lembe Kabila. Cette délégation tente de trouver un compromis au conflit foncier qui oppose depuis 2009 la famille Kabila à plusieurs autres familles habitant la localité de Mbobero. C'est dans le territoire de Kabare, à 10 kilomètres de Bukavu. Ici, la famille Kabila a acheté en 2009 une concession pour y réaliser réaliser des travaux agricoles. Conséquence, plus de 300 familles qui logeaient sur place et dans la limite de la dite concession devaient quitter le lieu. L'administrateur de Kabare était associé samedi au pourparler entre les deux parties en conflit. Tade Midero, joint par Cynthia Bachizi.
La première ministre a assuré que le gouverneur de province était au courant de la réalisation de cette mission et que le ministre provincial, lui aussi, était au courant. Et c'est sur base de ça que je me suis décidé de me rendre à Bovero. Dire qu'un compromis durable est trouvé, ce serait aller vite à besogne. En fait, il y a un groupe qui a accepté. Ce groupe-là, qui est d'accord, a reçu le mandat de 2000 et a signé une note d'engagement pour pouvoir libérer la concession de Maman Olive Lembe. Et il y a un autre qui n'a pas accepté, qui scandait des chansons. Pour certains, le montant de 2000 dollars qu'on donnait à chaque famille, il y en a qui contestaient ça, disant que c'est trop peu. Je voudrais donc que ça ne soit pas décidé d'une manière unilatérale. Et c'est pour cela que j'ai encouragé la délégation à continuer à dialoguer jusqu'à ce qu'il y ait un compromis.
Actualité, Afrique Monde.
La situation au Mali, au cœur du 57e sommet de la CEDEAO à Niamey, la capitale du Niger, les chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis ce lundi. En effet, la CEDEAO a suspendu le Mali de toutes les instances de l'organisation sous-régionale depuis le coup d'État de 18 août dernier. Le pays est en partie sous embargo. Nous voulons aider le peuple frère du Mali et non l'asphyxier, explique un responsable de l'instance dirigeante de la CEDEAO. Aux États-Unis, à deux mois de l'élection présidentielle, les livres sur Donald Trump se multiplient. Après sa nièce et l'ancien conseiller John Bolton, c'est au tour de l'ancien avocat du président américain Michael Cohen de publier un ouvrage intitulé « Disloyal à mémoire ». Le livre sort demain 8 septembre. Michael Cohen y qualifie le président américain de menteur, de tricheur et d'escroc.
L'invité.
Désormais, tout journaliste traqué ou poursuivi au Kasaï central dans le cadre de l'exercice de ses fonctions sera défendu devant différentes juridictions. Un contrat d'assistance juridique a été signé dans ce sens entre l'ONG Journaliste en danger GED et l'association d'avocats bâtonniers Dominique Kambala. Pour en parler, nous recevons Maître Dominique Kambala. Il revient ici sur les modalités pratiques de cet accompagnement des professionnels des médias en province. Il s'entretient avec François Kadima.
Maître Dominique Kambala, bonjour.
Radio Capi, bonjour.
En quoi va consister cette collaboration avec Journalistes en danger?
C'est plus un contrat d'assistance judiciaire entre l'association d'avocats bâtonniers Dominique Kambala et l'ONG Journalistes en danger. Vous savez que les journalistes sont confrontés à beaucoup de tracasseries, beaucoup de difficultés sur le chemin de l'exercice de leur fonction, de leur profession, et que donc nous avons accepté de pouvoir les accompagner. En quoi va consister cet accompagnement? L'accompagnement va consister d'abord en une assistance judiciaire, c'est-à-dire que chaque fois que un journaliste est traqué, poursuivi dans le cadre de l'exercice de sa profession, aussi bien au niveau de la police, du parquet que des cours et tribunaux, donc nous allons l'accompagner utilement pour pouvoir les défendre. Même dans l'autre côté, si un journaliste est victime d'une situation, donc nous pouvons l'accompagner judiciairement pour qu'il soit rétabli dans ce droit. Ça, c'est l'accompagnement judiciaire devant les cours et tribunaux, devant la police et même devant les services de sécurité, parce qu'il y a beaucoup de tracasseries à ce niveau-là. Alors, à côté de cet accompagnement judiciaire, nous allons faire aussi un accompagnement juridique en termes de dresser des rapports, mener des plaidoyers sur certaines situations qui concernent l'exercice de la profession. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, sur le plan du cadre légal, le cadre légal, il est suranné, il est dépassé, donc on peut pratiquement essayer de faire un travail pour améliorer le cadre légal et aussi essayer de voir sur le plan administratif les relations qui doivent exister entre les journalistes et les maisons de presse qui les occupent. Donc il y a lieu de faire aussi un travail dans ce sens-là pour essayer d'améliorer, et même aussi vis-à-vis des pouvoirs publics, parce que les pouvoirs publics s'érigent souvent en tracassiers de la presse. Et donc voilà tout ce travail que nous allons faire aussi bien sur le plan de l'accompagnement judiciaire que de l'accompagnement juridique qui comprend l'accompagnement administratif.
Aujourd'hui, vous savez que la lutte, c'est pour dépénaliser le délit de presse. Comment vous comptez vous y prendre parce qu'il y a cette dépénalisation qui n'est pas encore consacrée?
Eh bien, je sais qu'il y a des outils qui sont déjà développés au niveau du Parlement, mais au niveau provincial, il y a aussi la possibilité. Nous avons l'exemple du Nord-Kivu qui a un outil en termes de mécanismes législatifs qui protège et défend les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes. Donc nous pouvons aussi, ici au niveau provincial, essayer de mener un plaidoyer pour qu'on obtienne une couverture législative qui puisse bien défendre et protéger l'exercice de la profession de journaliste.
Vous pensez qu'il est facile dans un environnement ici au Kassai Central, c'est vrai que nous sortons d'une crise, d'aider les journalistes pour qu'ils soient réellement défendus, même si les actes commis peuvent être punissables devant la loi?
L'environnement, il est d'abord hostile. L'environnement politique est souvent hostile aux journalistes. L'environnement aussi économique, parce que le journaliste ici travaille dans un contexte de précarité, un contexte de pauvreté, à tel point que même par rapport à son indépendance, ça pose un problème. Mais il y a tout un travail à faire, toute une pédagogie à mettre ensemble qui nous permette, essentiellement, nous faisons un travail sur le volet judiciaire, mais subsidiairement, nous pouvons aussi contribuer pour que on puisse améliorer le cadre de protection et défense des intérêts des journalistes.
Est-ce que votre cabinet compte définir les modalités des collaborations avec les journalistes locaux pour essayer d'expliquer la démarche et faire comprendre le travail qui va être fait par votre cabinet?
Eh bien, à ce stade, il y a des cas qui sont référencés. Il y a le point focal de GED en province. Dès qu'il a des cas qui vont dans le sens d'un référencement judiciaire, tout comme un cas qui nécessite une étude, à ce moment-là, le cas nous est soumis. Tout comme aussi, il peut s'agir d'un cas qui est référencé au niveau national. Tout comme également, nous pouvons prendre des initiatives personnelles que nous pouvons partager avec GED pour pouvoir essayer de faire une combinaison de synergies sur la question.
Maître Dominique Kambala, nous vous disons merci.
C'est à moi de vous dire un très grand merci.
Par ici s'achève ce journal. Belinda Bossouma vous l'a présenté. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix.